C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Rémi.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le mardi 6 décembre et aujourd'hui nous vous proposons une émission consacrée à une pathologie psychiatrique qui touche environ 600 000 personnes en France, la schizophrénie.
Si tout le monde est familier avec ce mot, des clichés persistent et on associe souvent la schizophrénie à un dédoublement de la personnalité, ce qui, vous allez le voir, est loin de la réalité.
Et justement, pour casser ces clichés et nous expliquer au mieux ce qu'est la schizophrénie, nous allons recevoir Caroline Lahogue, doctorante en neurosciences au laboratoire Comet de Caen.
Mais avant, c'est l'heure des infos sciences de la semaine.
Et pour commencer, on va parler du retour de trois taïkonautes sur Terre.
Oui, un voyage de 6 mois dans l'espace pour trois astronautes chinois, deux hommes et une femme sont revenus sur la Terre ferme ce dimanche 4 décembre. La mission Shenzhou 14, pour laquelle ils sont partis, avait pour but de superviser les dernières phases de construction de la station spatiale Tiangong. On en avait parlé la semaine dernière, le dernier module de la station s'est amarré en octobre. L'assemblage complet de la station devrait se terminer avant la fin de l'année. Exclue de l'ISS depuis 2011 après que la NASA soit interdite de faire des partenariats avec la Chine par les États-Unis, l'agence chinoise des vols habités, CMSA, a décidé de lancer la phase finale du plan Tiangong pour créer un véritable station spatiale. L'équipage qui vient d'atterrir ce dimanche a été remplacé par l'équipage Shenzhou 15. C'était le premier transfert d'équipage réalisé en orbite par des taïkonautes. La station spatiale Tiangong, littéralement le palais céleste, devrait rester en orbite une dizaine d'années. Pour lutter face au manque de donneurs de sang, la solution se trouve peut-être dans le sang artificiel.
Oui, jusque 2023, 10 patients sains se portent volontaires pour participer à une expérience dont le principe est de se faire transfuser du sang artificiel. C'est une première mondiale. Et ce qu'on peut dire, c'est que les résultats sont pour le moment plutôt encourageants, puisque deux d'entre eux ont aujourd'hui l'équivalent de 2 cuillères de sang artificiel qui coulent parfaitement dans leurs veines.
Mais alors, comment est fabriqué ce sang ?
Et bien pour ce faire, on prend des cellules de notre peau avant de les ramener à l'état de cellules souches génériques. Ces dernières sont ensuite multipliées dans un bioréacteur avant d'être transformées en globules rouges. Ce sont donc ces dernières qui sont injectées dans les veines. A noter tout de même que cette innovation n'a aucunement comme ambition de remplacer le sang. L'intérêt est ici plus de soigner les maladies qui nécessitent des transfusions régulières tout au long de la vie. Le don du sang reste donc malgré tout le meilleur moyen de permettre de transfuser les personnes dans le besoin. Nous avions reçu il y a quelques semaines M. Fausto Viader, chef du service neurologie du CHU de Caen, qui nous avait confié la difficulté de diagnostiquer les troubles cognitifs au stade débutant. Mais une étude chinoise suscite un espoir.
Oui, c'est une étude publiée dans la revue Frontiers qui nous explique que l'acide formique que l'on retrouve dans l'urine pourrait être un marqueur biologique, c'est-à-dire une caractéristique mesurable qui peut indiquer si un patient est atteint d'une maladie ou non. Un test urinaire pourrait donc permettre de détecter la maladie d'Alzheimer, par exemple, à une phase précoce. Pour l'étude, 500 personnes âgées ont été réparties en 5 groupes selon la gravité de leurs troubles cognitifs. Un groupe n'avait pas de troubles et les 4 autres étaient atteints de manière plus ou moins sévère. Les résultats ont démontré que les 4 groupes touchés par la maladie avaient un taux d'acide formique plus élevé que les sujets sains.
Et aujourd'hui, il n'existe pas de moyen pour diagnostiquer tôt cette maladie.
Non, effectivement, les diagnostics actuellement sont complexes et longs. Pour la maladie d'Alzheimer, il faut des bilans de mémoire, des prélèvements biologiques et une imagerie du cerveau. Diagnostiquer tôt la maladie permet de prendre en charge plus rapidement la personne et de trouver un traitement adéquat pour limiter le développement des troubles cognitifs. À ce jour, il n'existe pas encore de traitement pour soigner la maladie, seulement pour la ralentir. Vendredi dernier, la plus vieille tortue du monde a fêté son anniversaire.
Et oui, Jonathan, c'est son nom, a fêté, tenez-vous bien, ses 190 ans. Cette tortue mâle vivant sur l'île de Sainte-Hélène est la plus vieille tortue jamais recensée, mais aussi l'animal terrestre vivant connu le plus âgé du monde. Rendez-vous compte, Jonathan est né en 1832, soit la même année que Gustave Doré, Jules Ferry ou encore Gustave Eiffel. Bon, malgré tout, le poids de l'âge se fait tout de même ressentir sur la santé de Jonathan, puisque la tortue a perdu la vue et l'odorat.
Tu viens de dire que Jonathan est le plus vieil animal terrestre, mais est-ce qu'il existe des animaux marins qui seraient plus vieux ?
Et oui, et même bien plus vieux, de nombreuses espèces marines sont capables de vivre plus de 200 ans. C'est notamment le cas du requin du Groenland, dont l'espérance de vie dépasse les 270 ans. Mais la palme d'or de la longévité revient au Turritopsis dorni, une sorte de méduse qui est tout bonnement immortelle, à condition évidemment de ne pas se faire manger. Pourquoi êtes-vous ami avec telle ou telle personne et pas avec telle ou telle autre ? Rémi, la réponse se trouve peut-être dans les odeurs.
Oui Simon, si on s'entend si bien toi et moi, c'est peut-être parce qu'on sent pareil. Une étude de la revue Science Advance dévoile des résultats plutôt incongrus. Il semblerait que les mammifères terrestres non humains se reniflent en permanence et que cela détermine leurs amis ou leurs ennemis. Pour vérifier ces hypothèses, les chercheurs ont rassemblé 20 paires d'amis âgés de 22 à 39 ans.
Et alors, quels sont les résultats ?
Eh bien, pour trouver des résultats, un nez électronique a été utilisé pour analyser la composition chimique des odeurs des t-shirts des participants, et les odeurs de chaque paire d'amis étaient plus proches que celles de paires de personnes générées au hasard. Pour approfondir le résultat, les chercheurs ont demandé à un nez de sentir les odeurs de deux amis et une troisième odeur au hasard, et le nez a réussi à identifier les paires d'amis. Bref, ici à Radio Phoenix, on s'entend tous très bien, et je peux vous dire que ça sent le succès.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
La schizophrénie fait partie des maladies dont on connaît tous le nom, mais qu'il nous est difficile de définir.
D'autant plus que la pop culture nous a souvent donné une image tronquée, imparfaite, voire complètement fausse de ce qu'est réellement cette maladie.
Pour casser cette image d'une schizophrénie qui ne serait que dédoublement de personnalité, et pour y voir plus clair sur ce qu'est réellement la schizophrénie, nous recevons Caroline Lahogue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en neurosciences au laboratoire Comet de Caen. Comment est-ce qu'on pourrait définir concrètement la schizophrénie ?
Donc, comme vous l'avez si bien dit, la schizophrénie, souvent, on le confond avec le dédoublement de personnalité, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Donc, c'est une maladie qu'on dit psychiatrique ou mentale, qui va avoir tout un panel de symptômes, notamment des hallucinations, des délires, ou encore des problèmes sociaux avec l'entourage.
Justement, comment elle se manifeste, cette maladie ? Quels sont les symptômes ?
Donc, c'est une maladie qui est assez complexe, parce qu'il y a une part de génétique et aussi une part de facteurs environnementaux qui sont nécessaires pour le développement de la maladie. Et donc, on a différents symptômes qui vont varier d'un patient à un autre. Donc, des symptômes qu'on dit positifs parce qu'ils vont se rajouter à un comportement normal, entre guillemets. Donc, c'est les hallucinations auditives, visuelles, olfactives, etc. Avec aussi des épisodes de délire, donc des convictions fortes en quelque chose qui est insensé. Et ensuite, on a aussi des symptômes négatifs. Donc là, c'est plus du repli social, des problèmes d'émotion, de contrôle de soi, etc. Et après, on a toute la sphère cognitive, donc des troubles de la mémoire, de l'intention, de la perception.
On évoquait du coup des symptômes. Est-ce qu'il y en a qui sont plus fréquents que d'autres ? On parlait peut-être tout à l'heure des hallucinations auditives. C'est quelque chose qui est plus fréquent ou est-ce que c'est encore autre chose ?
En fait, c'est tellement variable d'un patient à un autre que je ne dirais pas qu'il y a un symptôme qui est plus fréquent qu'un autre. Parce qu'on peut aujourd'hui parler en fait des schizophrénies. On aurait presque un type de schizophrénie par patient. Donc ça va vraiment dépendre du patient lui-même et du type de symptômes qu'il va développer.
Vous avez parlé de symptômes négatifs, notamment de choses qui peuvent ressembler à la dépression. Comment on peut faire la différence entre la dépression et la schizophrénie ?
Donc c'est très complexe. C'est parce qu'on peut penser que la dépression soit un symptôme à part entière de la schizophrénie. Donc encore aujourd'hui, on a du mal à bien discerner les deux. Donc après, c'est plus sur des dialogues avec le psychiatre ou les discussions avec le patient qui fait qu'on va aller plus vers d'une pathologie qu'une autre.
La schizophrénie, c'est une maladie qui est en nous dès la naissance ou est-ce que c'est quelque chose qui peut finalement arriver dans notre corps, entre guillemets, du jour au lendemain ?
Alors, en fait, vous avez une part de génétique, donc on sait qu'il y a des gènes qui sont impliqués dans cette maladie. Après, c'est pas parce qu'on a un gène qui va être muté qu'on va forcément développer la maladie après. Il y aura toute la sphère du développement de l'individu durant son adolescence qui va participer au développement de la maladie.
Oui, du coup, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui va faire que à un instant cette maladie qui est en nous entre guillemets va se développer et où concrètement les premiers symptômes vont apparaître ?
Pour être honnête, je ne sais pas vraiment. Ça va vraiment dépendre parce qu'on peut avoir tout un contexte qui est favorable au développement de la maladie sans pour autant le développer. Donc aujourd'hui, on estimerait sur tous les patients qu'on diagnostique entre guillemets potentiellement développeur de cette maladie, il y en aurait que 30% qui le développeraient en réalité. Qui est une marge d'erreur quand même assez importante.
Et en général, c'est à partir de quel âge que ça se développe ?
Entre 15 et 25 ans, sachant que pour les femmes, ça peut être plus tard, vers 30-35 ans.
Est-ce qu'on peut noter des cas très, très tard, de plus de 30 ans ? C'est déjà arrivé ?
Ça peut arriver, mais c'est plus rare. Généralement, c'est une maladie qui apparaît vraiment précocement dans la vie.
Pour parler encore un peu de la cause, vous avez parlé de facteurs génétiques, mais aussi de facteurs environnementaux.
Oui.
C'est quel est ce genre de facteur ?
Donc ça peut être du stress tout simplement, donc un traumatisme durant l'enfance, des conditions de vie qui sont défavorables. Durant l'adolescence, on sait que la prise de substances comme le cannabis, ça favorise le développement de la maladie. Donc c'est plusieurs facteurs comme ça durant l'enfance et l'adolescence qui font que...
Il y a des facteurs génétiques aussi qui existent ?
Oui, On a en fait tout un panel de gènes identifiés aujourd'hui, donc qui sont mutés chez certains patients et qui vont participer du coup à ça.
Non, je disais au niveau des facteurs aggravants, vous évoquiez tout à l'heure le cannabis. Quand on dit facteurs aggravants, c'est des facteurs dans le sens où ils vont plus facilement déclencher la maladie qui était déjà là, ou est-ce qu'ils vont favoriser l'apparition en elle-même de la maladie ?
Ça peut être un peu des deux, donc ça va augmenter le risque de développer cette maladie. Et ça peut être aussi un facteur aggravant, du coup, de celle-ci.
Et aussi peut-être de transmettre pour, je sais pas, une femme qui serait enceinte, par exemple, ou rien à voir.
En fait, il n'y a pas réellement de transmission entre femmes enceintes et enfants. Donc on sait qu'il y a des risques, par exemple, en tant que jumeaux, s'il y en a un qui a développé la maladie, l'autre a plus de risques de le développer aussi. Mais ce n'est pas réellement encore prouvé.
Est-ce qu'il y a aussi différents degrés de cette maladie, différentes choses qui peuvent être aggravées, différents symptômes qui peuvent être aggravés, pardon ?
Alors oui, tout à fait, donc ça dépend de l'évolution de chacun, mais il y a aussi le fait que la prise de médicaments chez certains patients peut aggraver certains symptômes, et donc ça va dépendre de la médication du patient et essayer d'adapter aussi à lui.
Est-ce qu'il y a des comorbidités qui existent, que ce soit physiologiques ou génétiques, qui font qu'on a plus de chances d'attraper la maladie ? Est-ce que, par exemple, quand dans une famille il y a déjà des cas, il y a plus de chances que ça continue, ou est-ce que c'est vraiment très aléatoire ?
Il y a une part de génétique forcément, donc il y a forcément des risques si dans notre famille il y a un membre qui est impliqué, ou en tout cas qui a développé cette maladie. Après, c'est pas systématique à chaque fois, mais il y a des risques.
Comment est-ce que cette maladie, elle se manifeste au niveau du cerveau ?
Donc ça va en réalité toucher à peu près tout le cerveau. Donc on sait que dans le cerveau il y a différents systèmes de transmission, glutamate, sérotonine, GABA, etc., etc., dopamine notamment. Et on sait que la schizophrénie, c'est une maladie qui est complexe parce qu'elle va toucher vraiment tous les systèmes de transmission dans le cerveau. Donc on a différentes zones, notamment le cortex préfrontal, donc à l'avant du cerveau. On a les régions qui sont impliquées dans la mémoire, comme l'hippocampe, qui vont être davantage impactées. Mais en réalité, la schizophrénie, d'où sa complexité, va toucher tout, presque.
Et ça explique tous les symptômes qui peuvent être de la mémoire, des sentiments ?
Donc on sait que, par exemple, au niveau du glutamate, on va avoir un déficit de glutamate au niveau des cerveaux des patients, et ça va être corrélé, par exemple, avec l'apparition de symptômes négatifs. Donc on peut supposer que certains patients qui ont plus de symptômes négatifs vont avoir davantage de déficit au niveau du glutamate, du système de neurotransmission glutamatergique, que d'autres.
Et du coup, le fait que ça touche toutes les zones du cerveau, Rémi évoquait tout à l'heure éventuellement les pertes de mémoire, etc. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations qu'on ne pourrait pas supposer ? On sait que forcément le cerveau va aussi diriger tout ce qui est audition, vue. Est-ce que ça peut aussi impacter ces sens-là ?
Oui, tout à fait. Donc ça peut être en lien aussi avec les hallucinations, puisqu'il y a hallucinations auditives, entendre des voix, visuelles, voir des ombres, olfactives, même sentir des odeurs. Donc ça va forcément jouer sur d'autres sens qu'on a, nous. Donc ça touche vraiment tout.
On sait que la science-fiction vraiment aime ce genre de maladie. Pourquoi est-ce que cette maladie est du coup moins connue ou mal connue par le grand public ?
Donc il y a une part de médias et de cinéma qui rentre en jeu pour la stigmatisation de cette maladie. Donc on voit souvent dans le cinéma des caractérisations du type la schizophrénie dangereuse, la schizophrénie c'est un dédoublement de personnalité. Donc on a cette image un peu négative et néfaste de cette maladie qui pourtant est la première psychose mondiale. Donc elle touche quand même 1% de la population mondiale, ce qui n'est pas anodin. Et donc généralement on confond un peu ces maladies-là parce qu'on a une méconnaissance de ce sujet.
Et pourquoi justement est-ce que ce fameux dédoublement de la personnalité est autant mis en avant alors qu'il est complètement faux ? Il y avait un point de départ, ou est-ce que c'est une espèce d'imagerie collective ?
Je pense que ça attire davantage de parler de dédoublement de personnalité que de parler de schizophrénie, juste d'hallucinations ou de problèmes sociaux avec l'environnement du patient. Donc je pense qu'il joue beaucoup sur ce côté-là pour attirer justement le public. En fait. Et nous, derrière, on essaye de rattraper un peu en disant que la schizophrénie, c'est pas égal à la dangerosité. Ils sont pas forcément dangereux pour les autres, surtout pour eux-mêmes. Et que surtout, c'est pas un dédoublement de personnalité. La personne est consciente de qui elle est. Et c'est plus la réalité avec l'extérieur qui est différente.
Et malgré tout, est-ce que ça tend à s'améliorer ? Est-ce que le grand public connaît de mieux en mieux cette maladie ? Ou est-ce que quand même, c'est encore très loin d'être assez connu ?
Alors, c'est encore très mal connu. Je dirais, parce qu'encore, il y a quelques semaines où je faisais des interventions dans des lycées ou auprès de grand public, on confond encore les deux maladies. Donc encore aujourd'hui, en 2022, on n'arrive pas trop à faire le distinguo entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ça encore, je pense que c'est encore une faute, on va dire, des médias ou du cinéma qui est beaucoup trop présent encore.
Comment ces personnes à qui vous parlez réagissent face à un vrai discours de deux professionnels, contrairement parfois à ce qu'ils voient à la télé ou dans les films ?
Généralement, c'est plutôt bien vu. Au contraire, ils veulent en apprendre davantage sur ça. Donc, ils sont plutôt contents de savoir réellement ce que c'est et comment distinguer les maladies psychiatriques ou mentales d'une manière générale. Donc, c'est plutôt généralement bien vu.
Avant de continuer cette émission, on va faire une petite pause musicale. On va se retrouver après Principa et sa chanson En attendant Anna. A tout de suite sur Radio Phoenix.
On vient d'écouter En attendant Anna du groupe Principia. Vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez C'est pas faux.
Nous sommes toujours avec Caroline Lahogue, doctorante en neurosciences, pour parler de la schizophrénie. On a parlé des symptômes de cette maladie. Parlons maintenant un peu des traitements et de l'accompagnement autour de la schizophrénie. Nous sommes toujours avec Caroline Lahogue, doctorante en neurosciences, pour parler de la schizophrénie. On a parlé des symptômes de cette maladie. Parlons maintenant un peu des traitements et de l'accompagnement qui existent autour de la schizophrénie. Où en est la recherche aujourd'hui autour de la maladie ?
Alors, donc au niveau des traitements, on est surtout sur une base médicamenteuse, donc avec des neuroleptiques ou antipsychotiques, comme on appelle. Donc généralement, c'est ce qu'on donne en priorité aux patients dès qu'ils sont diagnostiqués schizophrènes, en tout cas. Après, il y a d'autres traitements aussi non médicamenteux qui se développent de plus en plus, notamment des bases de thérapie cognitive, donc avec le dialogue, notamment avec des psychiatres, psychologues. Et on a aussi beaucoup de stimulation électrique ou magnétique pour directement stimuler des régions cérébrales qui seraient en hypofonctionnement, etc.
Est-ce qu'il y a un dépistage qui est possible en amont de la maladie ?
En réalité, on sait qu'il y a certains symptômes qui apparaissent très précocement dans cette maladie. Donc on pourrait appeler ça une phase qu'on dit prodromale. Mais pour le cas de la schizophrénie, c'est un peu plus compliqué. Donc il faudrait arriver à des stades beaucoup plus précoces, donc durant l'enfance presque du patient. Et c'est compliqué à diagnostiquer directement.
Malheureusement, est-ce que comme la plupart des maladies qui touchent le cerveau, est-ce que la schizophrénie, c'est une maladie qui vit restera à vie et de toute façon la seule chose qu'on peut faire c'est améliorer plutôt que de guérir tout simplement
Donc oui, en fait on guérit pas de la schizophrénie, on soigne les symptômes, donc on arrive à les diminuer, à stabiliser l'état du patient. Donc généralement un patient stabilisé, il peut vivre tout le reste de sa vie tranquillement si les médicaments sont adaptés, si le traitement est adapté, mais on soigne pas de cette maladie directement.
Vous avez parlé de différents traitements, est-ce qu'ils sont lourds, est-ce qu'ils peuvent avoir des effets néfastes?
Donc tout ce qui est médicaments, ça a forcément des effets négatifs, des effets secondaires sur le patient. Donc il y a certains patients qui sont très résistants à certains types de médicaments. Donc il faut adapter, tester un peu en fonction du patient, de ce qu'il a. Donc après, il y a certains médicaments, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont aggraver les symptômes de ces patients. Donc là, c'est vraiment un côté néfaste de ces traitements. Donc c'est pour ça aussi, quand on recherche de notre côté, on va essayer de développer de nouvelles molécules, de nouvelles substances pour essayer de soigner certains types de symptômes qui sont résistants et diminuer les effets secondaires à côté.
D'autant que la lourdeur du traitement, elle est aussi corrélée au fait que ce sont des médicaments qui sont pris quotidiennement pour la plupart, c'est ça ? Il y a pas...
Oui.
C'est un traitement vraiment qui ne doit pas être négligé.
Oui, tout à fait. C'est tout le long de la vie, ils vont prendre ces médicaments.
Vous l'avez dit, vous cherchez des nouvelles molécules. Comment est-ce qu'ils ont évolué ces traitements ? Où est-ce qu'on en était il y a 10 ans ?
Il y a 10 ans, pour le développement de la schizophrénie, on connaissait surtout la dopamine et le glutamate. Donc on avait beaucoup de traitements qui étaient face à ça, pour essayer de diminuer un peu ces différentes molécules dans le cerveau. Et aujourd'hui, on sait que comme ça touche à peu près tout, on va tester plusieurs thérapies différentes, plusieurs cibles différentes. Et par exemple, pour tout ce qui est troubles cognitifs, il s'avère que viser plutôt le système sérotoninergique serait plus efficace.
Qui est le système sérotoninergique, si j'ai bien dit ?
Sérotoninergique.
D'accord.
La sérotonine, oui.
Qu'est-ce qui se fait aussi au niveau de la psychiatrie pour soigner la schizophrénie ?
Donc au niveau psychiatrique, c'est-à-dire ?
On va dire tout ce qui ne va pas concerner forcément la prise médicamenteuse.
Ou l'accompagnement psychologique.
Donc il y a des thérapies qu'on appelle cognitivo-comportementales qui vont essayer sur des bases de dialogue. Donc après, je ne connais pas trop ces traitements-là, mais généralement, c'est des dialogues avec un psychiatre ou un spécialiste. Donc avec un spécialiste pour essayer de diminuer certains types de symptômes. Donc ça touche notamment les symptômes positifs plus que d'autres types.
Est-ce que globalement, on peut vivre avec ces traitements normalement toute sa vie ?
Si le patient est stabilisé, qu'il n'y a aucun souci secondaire qui l'impacte sur sa vie quotidienne, oui, il n'y a pas de souci avec ce type de traitement.
Stabilisé, ça veut dire qu'il a tout de même des symptômes, il n'en a plus du tout ?
Généralement, il n'y a plus du tout, ou alors le peu de symptômes qui restent, entre guillemets, n'est pas gênant pour lui.
On parlait tout à l'heure de prise médicamenteuse, mais aussi d'accompagnement psychologique. Est-ce qu'il y a des facteurs de vie, que ce soit je sais pas, de l'activité sportive ou même de l'activité sociale, qui font que la maladie va diminuer où finalement on va réussir à vivre, ce qu'on disait tout à l'heure, une vie à peu près normale ?
Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de thérapies qui se basent sur le sport d'une manière générale. Donc dans le cas de la schizophrénie, ça se fait. Donc après, il me semble que c'est en cours de développement s'il y a des traitements en cours. Il y a aussi beaucoup de thérapies autour de la musique qui se font de plus en plus, ou de la méditation. Donc c'est en train de se développer en fait, ce type de traitement non médicamenteux de plus en plus.
Et comment on peut permettre aux personnes qui sont atteintes de ce trouble de s'insérer socialement ?
Donc après, pour les aider en fait, à s'insérer, le mieux serait déjà d'apprendre un peu ce que c'est la maladie. Donc au sein des collègues, de la vie quotidienne, de la famille. Donc surtout la famille, c'est quand même aussi impactant pour la famille de s'imaginer vivre avec un patient schizophrène. Généralement, quand on ne connaît pas la maladie, ça fait un peu peur. Donc c'est la première chose, ce serait l'information des autres pour savoir, pour qu'ils apprennent en fait à ce que c'est la schizophrénie. Et ensuite, juste un accompagnement, j'ai envie de dire normal, si le patient est stabilisé, si ces traitements vont bien, si tout va bien, il n'y a pas de souci à l'intégration dans la vie.
Mais d'ailleurs, est-ce que les patients schizophrènes sont victimes de discrimination, que ce soit auprès du personnel de santé, dans le milieu du travail ou même dans les relations sociales ordinaires ?
Je ne pense pas. Tout simplement parce que si vous voyez une personne qui a un traitement qui lui va, qui tout va bien, où il n'y a pas de symptômes apparents, ça ne se voit pas directement qu'il est schizophrène. Donc c'est aussi ça, la difficulté des maladies mentales, psychiatriques, c'est que ça ne se voit pas directement qu'une personne est atteinte de telle ou telle maladie.
Mais si la personne, si ça ne se voit pas, mais que la personne le mentionne quand même, est-ce que peut y avoir parfois des réactions de peur qui sont fréquentes et qui peut-être pourraient avoir des conséquences psychologiques pour le patient qui...
Je peux imaginer que oui, mais je ne dirai pas plus, je ne sais pas.
On le disait tout à l'heure, la maladie arrive assez tôt, notamment vers 15 ans. On le sait, c'est une période vraiment charnière, l'adolescence, on rencontre plein de gens. Est-ce que ça complique un peu la prise en charge d'une maladie qui se développe à cet âge-là ?
Oui, tout à fait, parce que plus le diagnostic est précoce, mieux on pourra traiter les symptômes et mieux le patient pourra être pris en charge. Donc plus on attend dans l'âge, plus on attend vers 25-30 ans. Donc les symptômes, la maladie va bien être installée et ça va être plus difficile de gérer ça et on va avoir davantage de patients qui vont être résistants au traitement. Donc un diagnostic même précoce pour la plupart des maladies, je pense que c'est le mieux.
Et ça arrive du coup, surtout à ces âges-là, qu'il y en ait qui n'acceptent pas tout simplement un tel diagnostic et qui... soit refuse de se faire soigner ou alors n'arrive pas à bien être accompagné.
Oui, tout à fait. Donc ça arrive que certains patients n'acceptent pas d'être malades, donc ne veulent pas prendre des médicaments. Donc ça peut être lourd aussi pour lui de se dire que toute sa vie, il va devoir prendre un médicament pour se soigner. Donc certains n'acceptent pas. Après, il y en a d'autres qui vont davantage accepter. Donc oui, ça peut être compliqué aussi vis-à-vis du patient.
Donc on a dit, vous faites des interventions dans le lycée. Comment est-ce qu'on éduque les autres personnes, le milieu du travail, pour mieux les intégrer ?
Donc après, c'est juste en discutant généralement ou en leur posant des questions directement, savoir un peu ce qu'ils pensent de cette maladie, s'ils ont déjà entendu parler. Donc comme on disait, généralement c'est confondu avec d'autres pathologies, mais c'est vraiment en discutant avec eux, en essayant de leur apporter les choses un peu plus simplement que ce qu'on peut parler avec mes collègues, donc c'est vraiment juste comme ça, discuter avec eux.
Et en général, c'est des structures qui vont être demandeuses ou c'est les professionnels qui vont aller vers ces structures-là pour permettre de mieux faire connaître la maladie ?
Donc je prends mon cas, c'est pas spécifique en fait de la schizophrénie, donc c'est vraiment juste des actes de médiation en fait, où on va nous-mêmes prendre l'initiative d'aller parler de notre sujet au lycée, au collège, à d'autres personnes, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de notre part qui voulons vraiment apporter des connaissances sur ce sujet.
Merci beaucoup, Caroline Lahogue, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes doctorante en neurosciences au laboratoire Comète de Caen. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Et avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine.
Et on commence cet agenda avec le Dôme qui organise ce samedi à 14h un atelier intitulé « Vous avez du pot ». Le but est pendant 2 heures d'apprendre à concevoir un pot connecté capable d'arroser vos plantes et en particulier les plus sensibles. Le but étant pour vous de repartir avec les plants du prototype de votre pot que vous pourrez ensuite venir faire fabriquer ultérieurement. Les inscriptions sont gratuites et se font sur le site ledôme.info. On part à l'université maintenant avec l'organisation jusqu'à vendredi de la semaine Data SHS Caen, semaine durant laquelle sera proposée une série d'interventions concernant les méthodes de traitement et d'analyse de données en sciences humaines et sociales. Par exemple, ce jeudi de 14h à 16h30 à la salle multimédia de la MRSH, un atelier d'initiation au logiciel de statistique R sera organisé.
Et comme chaque semaine, une recommandation reportage, on vous propose de partir à la découverte des dinosaures du pôle sud. L'Antarctique n'a pas toujours été un continent de neige et de glace, mais bien un territoire avec un climat tempéré et une riche biodiversité. Ce reportage s'appuie sur les dernières recherches en paléontologie, accompagné de reconstitutions d'images de synthèse de ces géants du passé. Les dinosaures du pôle sud, c'est ce samedi 10 décembre à 22h20 sur Arte et en replay sur arte.tv.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emmanuel qui réalise cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous retrouvez Chloé pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.